Jeudi 6 juillet, à Brulioles, la maison de Noémie. Théâtre lecture par la compagnie Chantier Libre.
Radio Poitiers.
Donc, vous allez entendre une lecture d'un texte de Witold Gombrowicz qui s'intitule « Dans l'escalier de service » et qui est tiré de son recueil de nouvelles « Bakakai ». Au crépuscule, quand s'allument les premiers réverbères, j'aimais sortir en ville et accoster des bonnes. Des bonnes à tout faire. Insensiblement, cela devint une habitude et, comme on le sait, consuetudo altera natura. Les autres membres du ministère des Affaires étrangères et aussi tous les attachés d'ambassade étrangers, ceux qui n'étaient pas mariés, bien entendu, sortaient eux aussi et accostaient les uns ceci, les autres cela, selon leur goût, leur fantaisie ou leur tempérament. Mais moi, je m'attaquais uniquement aux grosses bonnes à fichu, aux bonnes à tout faire. À un tel point que lorsqu'on m'eut envoyé à Paris, avec le rang de deuxième secrétaire, flatteur pour mon âge, je dus, après quelque temps, revenir dans mon pays, tant ma nostalgie était forte. Je souffrais trop de voir les mollets si différents, les mollets minces, nerveux, gainés de bas, que montrent là-bas les bonnes. Cette vivacité meurtrière, abominable, insupportablement parisienne, devenait vraiment trop fine sur ses petits talons. Ah, le rythme excitant des petits pieds de la parisienne! Ce rythme me tuait. J'en cherchais un autre. Je cherchais une autre mélodie. Voici comment cela se passait. J'apercevais de loin une bonne à tout faire qui se déplaçait gauchement sur ses jambes épaisses. Je hâtais le pas et la suivais dans l'escalier de service et demandais d'abord « Est-ce que Madame Kowalska habite bien ici ?» Puis, nous pourrions en faire connaissance. Cela ne comportait rien de concret, aucun baiser, par exemple. Quoique j'ai accosté en 5 ans 1200 ou 1300 domestiques. Non, elles étaient trop craintives, sans doute parce que leur patronne était trop sévère. Je n'en ai rien jamais retiré de précis, sauf peut-être qu'il m'était plus facile de vivre. Mais je commis un jour une imprudence et un ami m'aperçut. Comme on pouvait le prévoir, il se hâta de raconter à ses connaissances. « Vous ne savez pas ? J'ai vu Philippe hier dans la rue. Il s'est retourné pour regarder une horrible boniche. » Le bruit dut se propager, de sorte que le 10e ou le 20e dépositaire de ce cancan se mit à me féliciter avec ironie pour mon goût pour les légumes frais, tandis que les autres bavardaient sur le thème « Je pourrais en raconter si je voulais. » On devine à quel point je fus effrayé. S'il s'était agi de filles alertes et bien faites, j'aurais pu relever cette histoire de légumes frais et répondre que je les préférais aux fricassées malsaines des grandes villes. Mais les bonnes à panier, les bonnes à tout faire, n'ont rien de commun avec les légumes frais, plutôt avec le lard, avec la friture, avec les quarts de brie. J'ai pensé plus d'une fois, avec amertume, que leur laideur rancie manifestait ma déveine personnelle, ma mauvaise étoile. J'eus tellement peur, donc, que peu après, j'épousai une personne qui représentait le parfait antidote d'une servante. Je cédai à la peur du ridicule, véritable tyrannie. Je m'arrachais aux bonnes, je les rayais de mon souvenir, je les congédiais toutes et leur claquais la porte au nez. Voyait-on toujours dans les rues passer de gros mollets montés sur des pieds épais ? Peut-être, mais c'était désormais terra incognita. Ma femme était extrêmement calmante, apaisante. Ses jambes étaient souples comme des lianes, longues, avec un coup de pied très mince. Elle témoignait de mon bon goût et sa silhouette aussi était souple, élégante. Ce mariage fit partout la meilleure impression. Nous avions engagé une jeune servante alerte qui, sans rien de commun avec les bonnes affichues, s'affairait autour de la table, toute propre, coiffée d'un petit bonnet de dentelle blanche. Ma femme organisa la maison sur un bon pied, et le dit pied était délicat, rassé, cambré, à 100 lieues de ses autres pieds affaissés, défoncés et pour toujours aplatis. En définitive, presque rien ne changea, sauf que disparut la parenthèse des 2 heures crépusculaires. D'un matin à l'autre, c'était la même chose parce que ma femme savait...
Ah !
Même au moment de folle passion, se rappeler que j'étais un fonctionnaire des affaires étrangères. Pour ma part, j'errais dans la maison en répétant « Ah, quelle beauté, quelle grâce ! Ah, quelle beauté, quelle grâce ! Ah, quelle beauté, quelle grâce !» Je le répétais avec d'autant plus d'obstination que rôdait en moi le cruel soupçon que ma femme, mes amis, même la jeune servante au joli bonnet se doutaient de quelque chose et que j'étais en observation, en traitement. Comment expliquer autrement cette étrange cruauté ? Comment expliquer qu'il semblait se brosser les dents trop souvent, avec trop d'exactitude, qu'il les nettoyait trop sévèrement, qu'il portait des escarpins trop pointus, des souliers vernis trop brillants ? Ma femme, par exemple, se baignait chaque jour, et à ce qu'il me semble, non sans une certaine intention tyrannique. Il y avait là trop de cruauté et trop de cœur, et une hydrothérapie trop froide. On aurait dit qu'il voulait anéantir en moi jusqu'à l'ombre d'un regret, jusqu'au caprice d'un caprice, au souvenir d'un souvenir. Cependant, j'approuvais avec docilité, j'admirais ma femme comme jadis j'avais admiré à Paris l'Arc de Triomphe. Comme un renégat, comme un traître, je regardais avec une admiration mensongère le pays hostile et glacé de ma femme, ses panoramas blancs et lisses, ses éléments aussi éteints et morts pour moi qu'un paysage lunaire. Charmante éminence, pensais-je en la regardant dormir, petite, ronde, blanche comme neige. Quelle silhouette élégante, quelle taille souple, comme cet ondulant, esthétique, moderne. Cette jambe voluptueuse, harmonieuse, comme elle s'allonge toute blanche sur les draps immaculés. Affreux mensonge. C'était un monde lunaire, tandis que la terre-mère gisait quelque part, invisible. Mais ma femme savait, même endormie, empêcher jusqu'à la pensée d'une résistance ou d'une révolte. Il y avait quelque chose de despotique dans la façon dont sa jambe s'amincissait vers le bas, comme si cette forme eût été la seule admise. Oh, ce pied propre, très cambré, à l'arc aussi triomphal que parisien. J'ai déjà mentionné que ma femme avait organisé la maison sur un bon pied. Elle savait le manœuvrer irréfutablement, elle le sortait sous la couverture comme une vérité reçue une fois pour toutes. Je l'embrassais d'une bouche froide et m'extasiais sur sa petitesse. Et chaque orteil était rose comme un joujou, et l'ensemble était modelé, achevé, parfait. Sur toute la surface de sa peau, pas une tache, pas une seule. Tout était blanc et lisse à l'infini. Ce n'était que lune froide et sculpturale, que perspectives harmonieuses, que haies bien taillées, que lampions chinois ou japonais. Une féerie. Et cela portait des noms spéciaux, étrangers, de la manucure à la permanente, du savoir-vivre au bon ton. Quant à moi, j'étais moi aussi européen, nettoyé, lavé. De même, tout dans le monde extérieur était nettoyé et arrangé. Escarpins flambant neufs, souliers vernis, cannes, robes de chambre à la mode. Et comme tout y était facile, accessible, il suffisait de signes conventionnels. Le tout était lisse, aisé, courant comme la jambe conventionnelle de ma femme, le tout s'amincissait vers le bas pour aboutir à un petit peton. Et le tout reposait sur quelques mots.
As-tu invité les Piotrowski au cocktail ?
Oui. Tandis qu'avec les bonnes, c'était différent, plus difficile. Il y avait de toutes parts des résistances acharnées, sans parler d'une certaine chatouillosité. Mon œil, mon nez, mon toucher ne voulaient pas. Seul mon être voulait. Rappelons-nous par parenthèse comment c'était. Je marche dans la rue, j'observe de loin, et en voici une qui vient en balançant son gros arrière-train et en mouvant gauchement de gros mollets courts, nus en été et couverts en hiver de bas de coton blanc. Je hâte le pas, mais dès ce moment, mon pardessus et mon chapeau melon font sentir leur présence. La difficulté et les tourments commencent. Je veux voir le visage, voir à quoi il ressemble et comment me retourner sans honte. Alors je dépasse la bonne en marchant très vite, puis je reviens sur mes pas sous un prétexte quelconque. Je lance un regard furtif et je découvre enfin ce qu'elle est. Appartient-elle à l'espèce des grosses rouges, fortes en gueule, ou des pâles, bouchies ? Est-elle ahurie, craintive ou braillarde, ou hilare ? Lorsqu'enfin, après beaucoup de stations dans les drogueries et de discussions avec ses congénères, elle entre sous un porche, je galope, je la rejoins dans l'escalier de service et lui demande hors d'haleine « Est-ce que Madame Kowalska habite bien ici ?» La bonne ne soupçonne rien pour l'instant. Elle traîne laborieusement ses pattes sur les marches et elle ne répond qu'elle ne sait pas. Moi, je tends l'oreille, craignant que quelqu'un ne descende ou ne monte, ou qu'il n'y ait une maîtresse de maison. Et doucement, et mon cœur qui bat, je propose « Nous pourrions faire connaissance ?» La bonne s'arrête. Elle regarde et voilà que quelque chose en elle semble sourire. Quelque chose s'agite sous les étoffes et il en sort, bonheur, une menotte barbouillée, une menotte gigantesque, mais très peu, pas plus que les convenances ne l'exigent. Je la prends, je la caresse, je chuchote, « Vous me plaisez beaucoup, mademoiselle Marie, je vous suis depuis la rue... »
Oh ! Et qu'est-ce que c'est qui vous plaît ?
Moi, les yeux baissés, le cœur battant, tout, mademoiselle Marie, tout... Et j'essaie de parler sur le ton le plus osé, hein, le plus naturel, pour ne pas éveiller surtout la chatouillosité encore en sommeil. La bonne se met à rire.
La canaille ! La canaille !
Elle rit et tout à coup, bricole du doigt dans une dent cariée. Absorbée par cette dent, elle m'a oublié et je reste là et j'attends. Alors elle retire son doigt, le considère et soudain... Quelque chose en elle se transforme.
Moi, ça ne me plaît pas de connaître des gens dans un escalier.
Une sorte de fierté primitive lui est revenue.
Non, mais voyez-vous ça ? Je lui plais. Il s'imagine que c'est arrivé.
Je baisse la tête, je courbe les épaules, je sens monter l'effroi, la sauvagerie, la chatouillosité. Cela va donc encore, comme tant de fois déjà, finir en queue de poisson ? Puis ma bonne se plie en deux dans un accès de bonne humeur. Qu'est-ce qui l'amuse tant ? Veut-elle badiner ? Elle s'affale, le derrière sur les marches, elle replie les pattes et elle rugit.
Guili, 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 guili.
Chut, chut, lui dis-je, redoutant les maîtresses de maison. Mais les autres bonnes qui guettent au palier supérieur lui font écho d'une voix perçante.
Guili, 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 guili.
Guili, guili. Guili, guili. Guili, guili. D'où peut donc venir cette chatouillosité ? Il doit y avoir en moi quelque chose d'excitant qui a provoqué leur faculté de rire. Je dois chatouiller leur sens du comique, un peu comme elles, mon sens de l'odorat. Peut-être est-ce mon élégant par-dessus, ou bien la propreté, le brillant de mes ongles, tout comme la saleté qui est comique aux yeux de ma femme. Ou alors c'est mon effroi des maisons de maîtresses, des maîtresses de maison, qu'elles sentent et qui les met en joie. Une fois que ce rire a commencé... Je sais que tout est fini. Et si, pour calmer la bonne, pour conjurer sa chatouillosité, j'essaie de lui prendre la main... Elle s'écarte d'un bond, elle s'enveloppe dans son fichu, émet un cri qui emplit tout l'escalier.
Quoi que vous me voulez ?
Je redescends en courant, tête baissée, tandis que derrière moi, l'enfer se déchaîne.
Vous avez vu la canaille ? Fous-le dehors, Mimi ! Elle sort de l'escalier ! Mais le saligo, donne-lui sur la gueule ! Donne-lui sur la gueule, il s'attaque aux demoiselles !
Il s'attaque aux demoiselles. Sur la gueule ! Oui, oui, oui ! Ce n'était pas comme avec les manucures. Ici, tout était énorme, sauvage, pudique et terrible. La jungle des cuisines. Tout était ainsi. Et bien entendu, jamais rien d'immoral ne s'est produit. Hélas, souvenirs refoulés, interdits. Comme l'homme est une créature déraisonnable, comme le sentiment l'emporte en lui toujours sur la raison. Je commençais à vieillir. Des cheveux gris apparaissaient à mes tempes. J'occupais la haute fonction de sous-secrétaire d'État et en arrivais à dépasser ma femme par le soin avec lequel je me lavais. La propreté, lui disais-je. La propreté absolument. La propreté avant tout. La propreté, c'est l'audace.
L'audace? Que veux-tu dire par l'audace?
Et le manque de propreté, c'est une sorte de timidité.
Je ne te comprends pas bien, Philippe.
La propreté crée la facilité. C'est le vernis, le modèle général.
Je ne comprends pas. Mais à propos de propreté, dis-moi, Philippe, que fais-tu dans la salle de bain? Quand tu te laves, on l'entend dans toute la maison. Ce sont des bruits et des clapotis, des ronflements, des tous, des glouglous. Hier, le facteur a entendu et a demandé ce qui se passait. Je dois dire qu'en effet, il faut se laver tranquillement. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire du vacarme.
C'est vrai. Tu dois avoir raison, mais quand je pense à tout ce qui se produit en ce monde, quand je pense à toute cette saleté qui nous submerge, qui nous submergerait si nous ne nous lavions pas. Oh, comme je la méprise. Oh, comme je la hais. C'est abominable. Bah, écoute, toi aussi, tu méprises cela comme moi. Dis-moi que tu le méprises.
Je m'étonne que tu le prennes tant à cœur. Moi, je ne méprise pas cela. Je l'ignore.
Elle me regarda et ajouta.
Philippe, j'ignore beaucoup de choses.
Moi aussi, mon trésor. Ignorance. Bon. Puisqu'elle le disait. Je n'avais rien à la contre. Moi-même, j'étais plongé depuis des siècles dans une ignorance sans bornes. Mais il apparut une certaine nuit que celle de ma femme avait pourtant des limites. Et nous en vîmes presque à une scène de ménage. On me secouait violemment l'épaule et j'ouvris les yeux. Ma femme se tenait au-dessus de moi. Elle s'était couverte en hâte d'une robe de chambre et, méconnaissable, tremblait de colère et de dégoût.
Philippe, réveille-toi, arrête! Tu cries dans ton sommeil des paroles, je ne peux pas les écouter!
Mais moi, dans mon sommeil, comment ça? Quelles paroles?
Est-ce que Madame Kowalska est bien ici? Est-ce que Madame Kowalska est bien ici? Et ensuite, tu as crié I-I Gili. C'est affreux! I-I Gili! Et ensuite, tu as gémi et tu as commencé à grogner que tu étoufferais. Que tu étoufferais je ne sais pas quelle lune, pâle, froide, étouffante, et tu t'es mis à répéter sans cesse « Je les déteste !» Philippe, qu'est-ce que c'est que ces lunes?
Oh, ce n'est rien, ma petite âme. Est-ce que je sais ce qu'on invente en dormant? Des lunes, c'est une histoire lunatique.
Mais tu as dit que tu les étoufferais, que tu les étoufferais, et tu as ajouté un tas d'expressions triviales.
C'est peut-être un souvenir de jeunesse, vois-tu? Je vieillis, et dans la vieillesse, on se rappelle le jeune temps. Comme la soupe qu'on a mangée il y a 30 ans.
Philippe, c'est l'une. C'est l'une.
Mais tu n'as pas à te faire du souci, ma petite âme. Tu n'es pas une sélénite.
Une sélénite? Comment ça? Mais bien sûr que non, que je ne suis pas une sélénite. Qu'est-ce que ça veut dire au juste une sélénite? Je ne suis pas une sélénite. Philippe, je n'ai pas eu avec toi une seule nuit tranquille. Tu ne te rends pas compte que tu ronfles. Je ne te l'ai jamais dit par discrétion. Oh, pour l'amour de Dieu, reviens à toi, essaie de rentrer en toi-même et d'éclaircir le tout d'une manière ou d'une autre, parce que cela se terminera par un malheur. Pas une seule nuit. Oh, comme tu résonnes, comme tu siffles, comme tu trompettes la nuit. Exactement comme dans une chasse à cours. Pourquoi t'ai-je épousé? J'aurais dû épouser Léon. Et maintenant que tu commences à vieillir, c'est de pis en pis. Et en plus, voici le printemps. Philippe, explique-les d'une manière ou d'une autre, ces lunes.
Mais je ne peux l'expliquer puisque je n'y comprends rien, ma petite âme.
Philippe, tu ne veux pas comprendre. Philippe, je dois dire que je ne sais pas ce que c'est que ces lunes, ces malédictions et tout le reste. Mais quoi qu'il arrive, souviens-toi que j'ai toujours été une bonne épouse. Je ne t'ai jamais voulu de mal. Philippe.
Je m'étonnais d'apprendre que je ronflais. Et où voulait-elle en venir? Et pourquoi ce ton avec moi? Je n'étais qu'un monsieur grisonnant, sans passion, en somme inoffensif, plutôt usé par la vie, ayant des habitudes régulières au bureau et dans le calme du foyer. Seulement, je me mis à faire de très discrètes avances à notre alerte femme de chambre. Ma femme s'en aperçut et la renvoya sur le champ. Et on engagea une nouvelle. À celle-là aussi, je fis des avances. Ma femme s'en sépara, mais je commençais à faire encore la cour à la suivante, de sorte que ma femme la congédia à son tour.
Philippe !
C'est plus fort que moi. Que veux-tu, ma chérie ? Je vieillis, vois-tu, et avant d'arriver à la retraite, je voudrais encore m'ébattre un peu. D'ailleurs, ces filles alertes, ces élégantes en bonnet, de dentelle, tu sais que c'est le menu des ambassadeurs, hein ? On en consomme aux meilleures tables. Ma femme engagea alors une jeune fille moins jeune. Mais la même chose recommença avec elle.
Oh !
Et alors ma femme, pensant qu'il s'agissait pour moi d'un caprice passager, d'une lubie éphémère, finit par prendre une souillon en fichu qui, à son avis, ne pouvait tenter personne. De fait, je me calmais. On monta dans la chambre de service l'inévitable mâle. Je ne levais pas les yeux. C'est seulement pendant le repas que je voyais un gros doigt gauche, que je voyais la peau sombre et rêche de l'avant-bras. J'entendais des pas qui ébranlaient la maison. Je respirais une odeur terrible d'ail et de vinaigre. Et plongé dans mon journal, je surprenais la turbulence, la raideur, la maladresse. J'entendais sa voix, cette voix un peu enrouée qui n'était ni tout à fait de la ville ni de la campagne. Parfois, un petit rire aigu me parvenait de la cuisine. J'entendais sans écouter et je voyais sans regarder. Et mon cœur battait et je redevenais timide, craintif, comme jadis dans les escaliers de service. J'errais dans la maison tout en combinant et calculant. Je considérais avec attention le jeu des éléments, la farce tragique de la vie. Comment l'épouse agissait sur la bonne et la bonne sur l'épouse. Et comment l'une et l'autre se révélaient pleinement dans ce contact. Au début, ma femme se borna à dire
« Oh !»
Je voyais bien que quand grondaient les pas de la bonne, elle tremblait comme un flan, mais elle était prête à supporter beaucoup. La bonne avait introduit dans notre demeure ses affaires en même temps que sa malle, c'est-à-dire de la vermine, des dents malades, des torticolis, des panaries, de grands pleurs, de grands rires, de grands lavages. Le tout se répandit dans la maison et ma femme se mit à serrer toujours davantage les lèvres jusqu'à ce que sa bouche ne fût plus qu'une toute petite fente. Il apparut, entre autres, que la bonne avait des gargouillements. Ma femme lui donna des remèdes, mais rien n'y fit. De son ventre sortaient toujours des grondements mystérieux, abyssaux. Le sombre abîme continuait à résonner. Ma femme imposa un régime, interdit tout ce qui pouvait provoquer ces bruits, et s'écria finalement...
Je vous renvoie si vous n'arrêtez pas!
La bonne s'effraya et, dans son effroi, gargouilla deux fois plus. Pâle et irritée, ma femme, voyant qu'on ne pouvait rien y faire, feignit de ne plus entendre, mais un léger tremblement des paupières la trahissait.
Julie?
Dit-elle une autre fois.
J'exige que vous preniez un bain. Une fois par semaine, de préférence le samedi, il faut bien vous frotter avec la brosse et le savon. Julie ?
Quelques semaines plus tard, elle avança sur la pointe des pieds vers la salle de bain et regarda avec précaution par le trou de la serrure. Julie se tenait tout habillée près de la baignoire et faisait clapoter l'eau avec le thermomètre. À côté se trouvaient la brosse et le savon, secs, intacts. Et il y eut encore des cris. Une irritation continuelle transforma peu à peu ma femme en une de ces petites dames aigries, impitoyables, au point que je m'en effrayais. Elle criait comme une pie, furieuse, contre le fiancé qui venait le soir voir la bonne.
Que voulez-vous ? Allez-vous-en ! Pas de ça ici ! Moi, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un ici ! Allez-vous-en tout de suite ! Ne remettez plus les pieds ici !
Exactement, exactement comme une de ces petites dames donnant sur la cour. Tout cela, tous ces changements étranges, je les considérais dans un état quasi cataleptique, dessinant sur la nappe avec ma fourchette pendant des heures. Oui, il n'était plus possible de revenir en arrière, on pouvait seulement faire un bilan, apurer les comptes, et aussi peut-être écouter encore avant la fin dernière le chuchotement coupable et doux de la jeunesse. Oh, comme j'étais misérable à présent, lavé et délavé jusqu'aux os, Où étaient les craintes, l'effroi, la gêne et la honte? Et je n'osais pas aller jusqu'au bout de ces interrogations irritantes. Avais-je gâché ma vie? Le péché et la saleté seraient-ils seuls profonds? La profondeur se cacherait-elle sous un ongle sale? Mon doigt écrivait machinalement sur la vitre « Malheur à celui qui abandonne sa saleté pour la propreté d'autrui. La saleté est toujours à vous, la propreté est toujours aux autres. » Et je pensais vaguement à des questions brumeuses. Je me disais qu'une certaine masse de laideur et de saleté compose une bonne affichue, et que si on lui enlevait cette saleté et cette laideur, elle ne serait plus une bonne à tout faire. Pourtant, chacune d'elles a un fiancé, et si ce fiancé l'aime, il aime à la passion le tout, la laideur comme la beauté. Et l'on peut donc dire de la laideur qu'elle aussi se fait aimer. Et si elle se fait aimer, à quoi bon la combattre? Et je pensais aussi que si quelqu'un aime seulement la beauté et la propreté, il aime seulement la moitié de l'être. Celui qui aime une horrible bonne, il vit, tandis qu'on se flétrit lentement sur un sein classique. « Julie !» dis-je à la bonne un jour. « Madame dit que vous êtes terriblement bruyante. Elle dit qu'elle en attrape la migraine. »«
Madame pense qu'une bonne, c'est pas un être humain. » »«
Julie, est-ce vrai ce que dit madame, que lorsque vous traversez une pièce, les porcelaines de Saxe résonnent sur leur étagère comme si elles allaient tomber en morceaux ?»
Madame, tout la dérange.
Mais madame est contre les bonnes, aussi bien contre vous que contre les autres bonnes de notre immeuble. Elle pense qu'elles jacassent et qu'elles bavardent trop fort, trop grossièrement, et qu'en plus, elles amènent toutes sortes de maladies. Et en plus, ce qui ne plaît pas à madame, c'est que chaque bonne est une voleuse. Madame en attrape la migraine, et les fiancés aussi, d'après elle, volent et amènent toutes sortes de maladies. Sur ces mots, je gardais le silence comme si je n'avais rien dit du tout, et selon mon habitude, quand je reviens du ministère, je me plongeais dans mon journal. Peu après, ma femme vint me demander de renvoyer la bonne.
Ces derniers temps, elle est devenue trop hardie. Elle regarde en dessous. Et en plus, elle sort tout le temps dans l'escalier et discute avec les autres bonnes. Je suis entrée une fois dans la cuisine, elles étaient quatre. Elle cancane avec le concierge dans la cour. Je pense qu'il est vraiment temps de la renvoyer.
Oh, qu'elle reste pour le moment. Elle est bavarde mais honnête. Elle ne vole pas. Mais ma femme devint d'une nervosité horrible. Je devrais dire disproportionné.
Julie, pourquoi avez-vous tellement ri aujourd'hui avec le concierge? Ben, c'est rien, on cause comme ça. Il n'y a pas de quoi tellement rire, Julie. Vous vous imaginez sans doute que vous êtes très intelligente.
Je ne sais à quoi l'attribuer, mais ma femme perdit vraiment tout contrôle sur ses nerfs. Elle va me faire une scène en bonne et due forme. Comme elle était sortie sur le balcon, la bonne d'en face avait dit quelque chose à la cuisinière, puis toutes les deux l'avaient regardée en éclatant de rire. Il fallait que je leur fasse des observations. Je passais donc la tête par un basistas et m'écriais « Qu'est-ce que c'est que ces rires stupides? Je vous en prie, ce sont des rires stupides !» Mais il semblait que ma femme fût possédée d'une véritable manie de la persécution.
« Renvoie-la pour le premier du mois! Elle est de plus en plus indocile! Elle répond des cancans sur notre compte! Je lui avais défendu de fréquenter les autres domestiques, et aujourd'hui, je l'ai encore surprise dans l'escalier, en train de rire et de ricaner avec les concierges et la cuisinière du rez-de-chaussée. Je ne peux pas supporter cette sottise.
La licencier, tout de suite? Elle se formera peut-être.
Philippe, je ne m'oppose pas du tout à ce que notre ancienne servante, la jeune, revienne.
Et elle ajouta avec effort.
Écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Julie rit grossièrement derrière mon dos, quelqu'un la pousse, je sens, oui! Je sens que dès que je tourne le dos, elle fait des grimaces. Elle montre la langue, ou bien elle me fait la nique. Je le sens.
Que dis-tu donc? Tu ne dois pas être en bonne santé, mon trésor. De quoi pourrait-elle rire, puisque tu n'as rien de risible?
Comment puis-je savoir ce qui provoque son rire? La sottise? La sienne, bien entendu, pas la mienne. Elle a dû remarquer quelque chose en moi.
C'est peut-être ta manucure qui la fait rire, cette rangée de petits miroirs brillants. Ou bien le fait que tu te sers d'un mouchoir pour te moucher. Dieu sait ce qui peut faire rire une bonne sans culture et sans usage. Peut-être tes savonnettes de luxe...
Arrête! Je ne veux pas le savoir! Ce n'est pas seulement elle qui rit, les autres aussi! Des rires si stupides, si grossiers, c'est une honte! Va voir le propriétaire. Les têtes sont à l'envers, moi je vais tomber malade!
Je fis des reproches à Julie. Julie! Julie, pourquoi énervez-vous madame? Vous savez que madame est délicate, elle peut facilement tomber malade. Et j'allais me plaindre au propriétaire du désordre qui régnait dans l'immeuble, mais le lendemain, on jeta sur moi d'une fenêtre un oignon pourri. En fait, il me semblait, à moi aussi, en un sens, que l'on pouvait, dans le vacarme printanier de la cour, discerner une certaine sottise, une certaine vulgarité, une certaine chatouillosité terrible et soudain réveillée, comme si l'on avait titillé avec une plume la plante du pied d'un mastodonte. Une bonne de l'arrière-cour s'enhardit, paraît-il, jusqu'à rire au nez de ma femme. Cependant qu'apparaissaient sur la porte d'entrée d'abominables dessins, des plaisanteries vraiment affreuses, écrites à la craie, et au milieu, nous étions représentés, ma femme et moi, sous une forme horrible, dans une horrible posture.
La police ! Où est la police ? Comment osent-ils ? Qu'on chasse toutes les bonnes, le concierge, ses enfants ! Les enfants du gardien aussi sont impertinents ! C'est une mafia ! C'est un complot ! Vous entendez, Julie ? La police ! Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Je vous défends de me regarder ! Fichez-moi le corps ! Fichez-moi le corps tout de suite !
Mais ces cris ne parvenaient qu'à exaspérer l'audace de l'autre et sa haine affreuse, insolente, jusqu'alors cachée.
Philippe ! Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a des saletés qui vont entraîner quelque chose ! Qu'il y a moi qui me tombe, Philippe !
Ici, elle me jeta un regard et perdit aussitôt toute couleur. Devint grise, alla silencieusement dans un coin, s'y assit. Je restais dans mon fauteuil, tenant d'une main mon journal et de l'autre une cigarette qui se consumait, et je réfléchis longtemps. Sans doute, pensais-je, on pourrait chasser la bonne, on pourrait changer d'appartement ou même de quartier, on le pourrait, si je n'étais pas si désarmé, si timide et si tremblant. Ma femme me demandait ce que ça signifiait. Ce que signifiait quoi ? Qui donc ici était ridicule, sauvage et affreux ? Si ma femme haïssait la bonne aussi haïssait ma femme. Je me penchais sur cette haine, je la prenais dans mes mains tremblantes et plongeais sur elle mon regard affaibli de vieillard, tout en prêtant l'oreille à la voix obstinée qui parvenait de la cuisine.
Eh ben, j'ai dit à madame que si je voulais lui raconter tout ce qu'ils imaginent, ben j'en mourrais de honte et madame en aurait le sang glacé dans les veines.
J'écoutais, je me taisais. Jusqu'à ce qu'un jour, ma femme enlève son alliance et la dépose sur la table de la salle à manger. Alors, cette alliance, oh, tout à fait machinalement, hein, j'étais si pensif, cette alliance, je l'ai prise et fourrée dans ma poche. J'ai demandé alors à ma femme, « Mon enfant, où est ton alliance ?» Ma femme regarde aussitôt la bonne et la bonne, ma femme. Ma femme dit...
Julie.
La bonne dit...
Madame.
Ma femme crie...
Voleuse.
La bonne vocifère grossièrement les poings sur les hanches.
Voleuse toi-même.
Ma femme.
Taisez-vous.
La bonne.
Tais-toi toi-même.
Ma femme.
Dors tout de suite.
La bonne.
Dors toi-même.
Oh, cette scène. Déjà, des têtes se montrent à toutes les fenêtres. De tous côtés fusent des cris, des malédictions, des insultes. Un terrible cri se fait entendre de plus en plus fort. Je regarde, la bonne a saisi ma femme et par les cheveux tire, tire. Et j'entends, comme dans un brouillard, la voix de ma femme.